Il est midi une ici et maintenant, et jusqu'ici ça va. C'est l'heure d'Altermédia en escapade, l'émission qui prolonge et complète les contenus du bimédia citoyen Altermédia en partenariat avec Radio Escapade. Dans un monde qui se radicalise et perd son humanité, nous consacrons cette émission aux enjeux de la culture et de la création. Dans chaque période de crise, ces enjeux sont relayés au second plan par nos responsables politiques au moment où nous en avons le plus besoin, précisément parce que la culture réduit la distance qui nous sépare. Au menu de l'émission, l'incertitude liée aux réductions budgétaires et leur incidence avec la diète imposée par l'État et plus proche de nous par le département de l'Hérault, aux artistes et acteurs culturels, alors que les vaches sont déjà bien maigres. Quelle place pour la culture cette année dans le budget des collectivités ? On entendra les réponses de la présidente de région Occitanie, Carole Delga, et du maire de Montpellier, Michael Delafosse, à cette question. Quels incidents seront les coupes annoncées dans l'Hérault si elles étaient votées ? La directrice du théâtre Albared à Ganges, Agathe Arnal, nous expliquera les conséquences concrètes d'un coup de sabre sur la vie et l'odyssée d'un théâtre bien implanté qui tisse des liens dans l'arrière-pays. Nous prendrons un peu de recul en évoquant les orientations du ministère de la Culture avec Emmanuel Négrier, directeur de recherche en sciences politiques au CNRS, spécialiste des politiques culturelles. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios le comédien et metteur en scène Éric Lacascade à l'occasion de la reprise Œdipe Roi d'après Sophocle, créée au printemps des comédiens en 2022. La pièce sera donnée du 3 au 27 avril à la Scala à Paris avec une date exceptionnelle au Théâtre Albared à Ganges le 15 mars prochain. Bonjour Éric Lacascade.
Bonjour.
On reparle de la riche actualité autour de votre création dans la seconde partie de l'émission, mais vous restez avec nous tout au long de l'émission en tant que témoin pour nous faire partager votre regard aiguisé en tant que créateur qui s'est toujours senti concerné par la politique et notamment la politique culturelle. Au niveau local, national et international, votre parcours s'inscrit au carrefour entre la création, enjeux artistiques et projets politiques. Comment vous faites cohabiter ces trois notions ?
La création, l'enjeu artistique et le projet politique, c'est quelque chose qui, je pense, qui dialogue en permanence. Après, c'est très différent quand on est responsable, comme j'ai pu l'être à un certain moment, d'institution ou bien directeur de compagnie indépendante. En tout cas, à la base, il y a d'abord un projet artistique, et je pense que c'est ça qui est important, ce projet artistique. Évidemment, il est situé dans une époque obscure aujourd'hui. Dans une époque, il est situé dans des contraintes, et il a quelque chose à dire, a priori, qui vient, comme disait Rilke, du fond du cœur. Donc quelque chose comme ça qui sort de vous et qui est essentiel à dire. Et après, c'est une question de vie organique, on pourrait dire, comment vous faites aujourd'hui, hein, entre les notions de vie, les enjeux sociaux et le projet politique qu'on a chacun. Et le théâtre, c'est quelque chose comme ça. Donc ça dialogue en permanence, il y a des contradictions, il y a des réflexions, c'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est quelque chose qui avance, qui se répond, qui dialogue, qui discute.
Et justement, cette époque sombre, est-ce qu'elle éveille votre âme artistique ?
Non, pas particulièrement. C'est-à-dire que l'âme, c'est quelque chose normalement qui devrait toujours être élevé. Donc, elle est, depuis que j'ai 17 ans et que j'écrivais des poèmes au fond de ma chambre d'adolescent pour pouvoir mieux me rendormir après, c'est toujours quelque chose qui a été chez moi... éveillé, et c'est une chance d'avoir cet éveil de l'imaginaire, de l'envie, du désir d'essayer d'être au plus proche de, je sais pas, d'une aspiration, d'un souhait, d'une utopie, d'une envie, et d'essayer de le faire partager à des gens. Cette époque crée d'autres aspirations, d'autres questions. C'est compliqué, je trouve c'est compliqué de savoir quoi dire aujourd'hui au théâtre. J'ai jamais pensé que le théâtre était une tribune, j'ai toujours pensé que c'était un reflet intime de ce qu'on ne dit pas d'habitude et qu'on dévoile, et de partager avec le public cette intimité cette forme de vie qui est là, ensemble dans une communauté, sur le plateau, en partage avec la salle de spectacle, à travers quelque chose qui est comme une poésie, une construction imaginaire, un autre monde possible. Et dans notre monde impossible, quel autre monde est possible ? De quoi nous emparer aujourd'hui ? Parce que moi, je fais un théâtre qui parle à partir de la vie. Et quand la vie devient si opaque, complexe, comment dire, comme ça, dans une espèce de grand melting pot où l'information chasse l'information, les nouvelles les plus terribles succèdent aux nouvelles les plus terribles. Alors de quoi tu parles au théâtre, précisément ? Elle est où la vie ? Elle est où la réalité ? Et ce problème-là de rapport au réel, pour moi, il est fondamental dans mon travail. Donc quelquefois, je me dis, mais de quoi je peux parler aujourd'hui ? Est-ce que je ne vais pas rester plutôt dans mon petit village à regarder l'eau couler et passer sous le pont de Saint-Laurent-le-Minier et réfléchir à qui on est, à ce que je suis. Je ne sais pas, c'est complexe. Pour moi, c'est complexe, ce n'est pas simple. Comme j'ai toujours fait ce théâtre au plus proche de ce que je ressentais. Et aujourd'hui, je ressens tellement de choses différentes et compliquées. Et c'est pour ça, on en reparlera après, peut-être que j'ai monté une tragédie antique qui, elle, est ancrée de tout âge et de toute époque dans notre réalité personnelle.
Effectivement, on en parle après. Nous sommes ensemble pour une heure d'info citoyenne et indépendante en région avec Fabien à la prise de son. Bienvenue dans Intermédiaire en escapade. L'homme ne naît pas homme, il le devient, disait le grand humaniste Érasme dans son traité d'éducation paru en 1519. Belle maxime à laquelle on pourrait ajouter « Aujourd'hui, l'homme ne naît pas idiot, il le devient ». Devenons-nous idiots ? Oui, non, peut-être. On éprouve du moins ce sentiment comme une menace qui plane sur nos crânes avec la montée en puissance des raisonnements basiques, religieux, ou purement budgétaire, des raisonnements qu'on applique à la culture et à la création. Notre cher Érasme avait choisi de mener une vie indépendante sans se sentir lié par une nationalité, par des liens académiques ou par des coteries religieuses, tout ce qui aurait pu entraver sa liberté de pensée et d'expression. Alors que les enjeux culturels concernent des questions très vastes, comme la diversité culturelle, l'identité et les influences interculturelles qui façonnent notre société, les idées d'extrême droite qui se diffusent dans les médias et l'opinion attribuent à la culture une place majeure dans le redressement moral du pays. Pour vous, Éric Lacascade, le théâtre a-t-il une vocation politique ?
C'est difficile de réduire le théâtre à une chose, donc je pense que c'est multiple. Il est la politique en fait partie, comme l'humain, comme les émotions qui nous traversent, comme les rapports de force. Si la politique, c'est les rapports de force, de domination, alors oui, le théâtre est traversé par la politique. Vitesse disait que la place d'un projecteur était politique. Comment vous faites de théâtre, de quelle manière, comment vous communiquez dans votre groupe, comment vous vous adressez au public, tout ça est politique. Mais je pense que quand vous savez, c'est un peu comme dans la vie, quand on fait du théâtre pour, ou quand on fait quelque chose dans la vie pour un objectif, souvent on échoue. Et si le théâtre politique avait réussi, ben la société serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le théâtre aurait changé le monde. Donc je pense que il faut faire du théâtre avec les gens, faut faire du théâtre par les gens, faut pas faire du théâtre pour les gens. Et on est obligatoirement traversé par notre époque, donc, mais surtout pas le réduire, sinon on risque d'échouer, d'être très triste.
Vous avez un cheminement à ce niveau-là, hein, parce qu'à la fin des années 70, vous avez débuté le théâtre par une pratique militante qui s'est convertie dans les années 80 à travers une pratique de théâtre engagé. Quelle différence vous faites entre la pratique d'un théâtre militant et celle d'un théâtre engagé ?
Un théâtre engagé, c'est que j'essaye de mettre en ligne ce que je dis avec ce que je fais, et que ce que je dis m'engage. Donc j'ai essayé ça avec les acteurs en créant un théâtre. Je pense que le théâtre est une œuvre communautaire. Donc en essayant comme ça de créer des œuvres collectives, tout en ayant un rôle de leader et de guide aveugle dans la création. Et en essayant de créer aussi des spectacles qui parlaient de société, de groupe, où l'individu était au service du groupe et le groupe au service de l'individu. Donc engagé aussi dans une manière de voir le monde qui pour moi n'est pas un monde fait d'individus isolés. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui peut être dangereux, c'est cette idée que c'est pas le pouvoir qu'il peut y avoir sur l'individu, mais plutôt l'individu au pouvoir dans son individualisme et dans sa solitude. Donc créer comme ça autour de ces thématiques, engager aussi à faire un travail au plus proche des acteurs, peut-être mettre moins d'argent par exemple dans un décor et une scénographie, mettre plus d'argent dans le travail d'acteur, engager avec des partenaires sociaux, économiques, éducatifs, populaires, pour faire un travail ensemble, non pas pour eux encore une fois, mais avec eux. Et c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé au théâtre, c'était vraiment une histoire de prise de parole. Je disais des choses dans la rue ou dans des tracts et je me faisais taper un peu plus sur le nez. À l'époque c'était sur le nez, aujourd'hui on arrache des mains et on crève des yeux. Donc j'avais un peu ça et je me disais tiens, tout d'un coup je peux dire ça par le théâtre et en plus on va me donner de l'argent et m'applaudir. Donc j'ai commencé dans cette démarche là dans les années, début des années 80, où c'est vrai que les groupes politiques étaient liés à des groupes de théâtre, chacun avait son petit groupe et faisait des scénettes d'intervention. Donc c'est ça qui m'a amené en crachant le feu et en jonglant
avec le Balatome Théâtre,
voilà, en créant avec le Balatome Théâtre et tout ça pour après faire le travail que j'ai pu faire.
Crosstown Traffic, un morceau où Hendrix évoque la circulation à travers la ville, écomé dans la chanson Un délit de fuite, après avoir renversé une jeune fille qui s'est jetée sous ses roues. Le morceau figure sur l'excellent album Electric Ladyland sorti en 68. Tiens, 68. Empêtré dans une crise politique et financière, l'État, qui pourvoit grandement aux finances de la culture au moyen d'aides, d'investissements et de subventions, annonce une baisse du budget de la culture de 150 millions en 2025, après une baisse de 100 millions en décembre dernier. On note qu'au passage, la transmission des savoirs et la démocratisation de la culture perd 20 millions. Quelle lecture vous faites du retrait de l'État, du retrait financier de l'État, Éric Lacascade ? Est-ce la fin du consensus hexagonal autour de ce qu'on a appelé l'exception culturelle ?
Moi, je pense que c'est en déliquescence depuis déjà une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis les années Sarkozy, on voit que la culture est reléguée au deuxième plan quand même. Nous, les gens de l'artistique ou de la culture, on n'est plus partie prenante. On voit bien que les politiques, moi je le vois, viennent de moins en moins au théâtre, s'intéressent de moins en moins à ce qu'on fait dans nos théâtres et dans nos institutions. Il y a ce qu'on appelle la marge artistique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire il y a un budget de fonctionnement. Et ce qui reste, c'est pour les artistes. Et on se demande quelquefois, qu'est-ce que font les artistes dans les lieux ? Ils y vont tellement peu, ils sont tellement de passage rapidement, on joue une ou deux représentations et puis on s'en va. Le temps de répétition, il est passé, moi, quand j'étais plus jeune, de 2 mois et demi, 3 mois, à 6 semaines. Donc, comment on fait pour jouer Shakespeare et monter Hamlet en 4 semaines ? Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est dans l'air depuis un sacré bout de temps, qu'on a enlevé petit à petit des briques dans le mur. On lui a pas donné tout de suite comme ça un coup de massue, mais les briques au fur et à mesure se sont dans cette société rentable petit à petit se sont enlevées, et on arrive à ce qu'on arrive aujourd'hui avec ce 0,8% je pense budget de la culture qui est absolument risible, alors que véritablement la culture, c'est pas de la décoration, c'est comme les colonnes qu'on appelle des cariatides, qui sont des jolies femmes qui tiennent le temple. Et un déficit culturel, ça se rattrape pas. Comme un déficit économique, ça peut se rattraper. Un déficit culturel, ça se rattrape pas. Maintenant, comme disait Victor Hugo, ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent. Les autres, je les plains, disait Victor Hugo. Donc, faut lutter. On est énormément dépendant de l'État. On est très peu solidaire. On est une profession presque libérale, ultra dans notre fonctionnement, où chacun est dans son coin, chacun sur sa part de subvention. On dépend énormément de l'État. On a eu du mal à mettre en place autre chose. Et il va être temps d'y penser. Il va être temps de savoir comment on peut avoir des pensées oppositionnelles dans des lieux oppositionnels. Et pour ça, il faut essayer d'inventer d'autres modalités que celles de l'institution. Sans doute inventer d'autres alliances, d'autres rapports. Il est temps d'y penser, véritablement. Et puis, de toute façon, il y a des gens qui y réfléchissent, j'imagine, déjà. Parce que dans le théâtre, il y a des gens qui ont tout. Et des gens qui ont très peu, et ceux qui ont très peu déjà réfléchissent à comment ils se débrouillent pour continuer à porter une parole, la leur, à créer cette poésie du spectacle vivant. Donc, voilà, dans le théâtre, ça n'a jamais été de l'eau pour tous, ça a été plutôt champagne pour quelques-uns. Ben voilà, le champagne maintenant a un goût un peu frelaté, et puis si dans 1 an et demi ou 2 ans des élections viennent et une extrême droite violente passe au pouvoir, ce sera sans doute encore pire, et on verra si on continue à boire des coups avec ceux qui nous gouvernent ou si véritablement on est capable d'émerger dans une dépensée, une pratique, une réalité qu'on inventerait un peu différemment que cette sébille qu'on tend à l'institution et qui de plus en plus nous crache dessus en nous donnant 1 euro, quoi.
Ouais. Le 14 février a eu lieu au Domaine d'Eau une journée de lancement du secteur théâtre de l'Icar Lab, journée dite d'accélération, proposée dans le cadre du Programme national de recherche industrie culturelle et créative. Ce projet est doté d'un budget de 25 millions d'euros sur 6 ans pour positionner l'industrie culturelle créative française dans la compétition internationale. La journée associée scientifiques et acteurs culturels autour de la question « Le théâtre est-il une industrie culturelle créative ?» On écoute le point de vue d'Emmanuel Négrier, directeur de recherche au CNRS en sciences politiques et spécialiste des politiques culturelles. Alors on est aujourd'hui dans une journée d'accélération ICAR Lab, un programme de recherche doté de 25 millions sur 6 ans pour construire une industrie créative et positionner donc la France en leadership international sur ce secteur. Cela à l'heure où l'économie du spectacle vivant vit une crise sans précédent. Alors ce paradoxe-là, est-ce que quelque part il n'est pas une illustration du vide politique que nous traversons ? Et plus particulièrement, puisqu'on parle de politique culturelle, de cette politique culturelle.
Alors, je dirais qu'il y a moins un vide politique qu'un désarroi général sur le modèle français de politique culturelle, qu'on voit à la fois se traduire à l'échelle nationale, avec un portage très délicat des grands enjeux culturels qui sont aujourd'hui au-delà des industries, les questions de droits culturels, les questions d'accès démocratique à la culture, les questions d'autonomie de la création, de lutte contre des formes plus ou moins insidieuses de censure, etc. Donc il y a tous ces gros enjeux-là et on a l'impression qu'à l'échelle nationale, la France est presque muette. Et alors Je trouve qu'effectivement, le fait que la recherche, mais non pas la recherche toute seule, mais la recherche en coopération avec les acteurs culturels, se saisisse de ces enjeux, c'est peut-être la bonne nouvelle, au sens où la repolitisation, au sens noble du terme, des enjeux culturels passe peut-être par une meilleure connaissance de ce que c'est que faire culture pour faire société. Et d'une certaine manière, on a tous une idée de ce qu'est le théâtre, mais on est tous pleins d'idées reçues sur ce qu'est le milieu du théâtre, sur ce que c'est que cette population des artistes. On le voit dans les discours, par exemple, de la présidente de la région Pays de la Loire sur ce monde shooté à la subvention, un monde moitié d'assisté, moitié de privilégié, qui ne correspond absolument pas à ce qu'est le milieu culturel, ni du côté des publics, ni du côté des artistes. Autrement dit, le fait d'entrer dans la fabrique, au sens sociologique du terme, pas simplement aux techniques, c'est peut-être le moyen de prendre conscience des enjeux qui sont là, et pour paraphraser Victor Hugo, de faire bien attention quand on conteste le bien fondé des politiques culturelles à ce qui pourrait ressembler à une politique fondée sur l'ignorance ou sur l'inculture. C'est assez frappant de confronter les discours politique sur l'échec de la démocratisation culturelle, sur le fait qu'on n'est pas, on est dans le département de l'Hérault, donc on n'est pas en présence d'une compétence obligatoire. Ça, ce discours-là n'aurait jamais pu être tenu il y a même 10 ans. Donc, non pas obligatoire au sens de l'obligation légale d'agir, mais l'obligation morale et politique d'agir. Et c'est ça dont se défend, sur la base d'une méconnaissance de ce que sont les vertus de la culture, les vertus sociales, les vertus économiques éventuellement, et territoriales, que des acteurs politiques qui ont été les porteurs du modèle français de la culture s'en défont aujourd'hui.
Alors là, vous faites référence à un autre paradoxe à propos des coupes budgétaires dans le milieu de la culture. On est justement là au domaine d'eau, où le président, en janvier, le président du département a annoncé une coupe drastique qui va sans doute s'établir autour de 48% et qui va toucher particulièrement le spectacle vivant. Parliez du fait que ça soit une valeur morale à défendre, c'est peut-être aussi une valeur économique et une valeur au niveau de l'emploi, au niveau local.
Oui, alors là, c'est un paradoxe que je croise quasiment tous les jours. Le paradoxe peut s'énoncer simplement. D'un côté, il y a une perte de croyance de la part des élus sur leur légitimité ou leur pertinence à intervenir dans le domaine de la culture, alors même qu'il s'agit de politiques qui sont responsables d'enjeux aussi clairs que l'aménagement du territoire, les politiques sociales, etc. Et dans le même temps, quand on examine les projets culturels, les retombées économiques de ces événements ou de ces structures culturelles sont de plus en plus fortes. Là, il y a un paradoxe absolument considérable, parce que, j'ajoute un point, les acteurs culturels sur un territoire, c'est de l'économie non délocalisable. C'est du terreau de développement à tous les sens du terme. Dans un monde où, effectivement, les activités économiques peuvent faire sécession du jour au lendemain, eh bien, on est en présence là d'un modèle beaucoup plus vertueux.
Est-ce que sur cette question, justement, on ne peut pas faire état d'un déficit de la recherche sur la valeur ajoutée que peut apporter la politique culturelle, enfin le secteur culturel au niveau local, alors qu'on voit que là, on est aujourd'hui sur une dimension de valorisation internationale qui peut quelque part s'en éloigner?
Oui, alors vous avez raison. Et alors je plaiderai d'abord coupable, d'une certaine manière, en tant que chercheur, parce que c'est vrai que l'argumentation des retombées économiques de la culture comme justification de la dépense publique en matière de culture, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que si vous ne fondez une politique culturelle que sur cet argument, du jour au lendemain, vous pouvez vous mettre en défaut par rapport à un événement de course automobile ou un salon agricole ou de haute technologie qui produirait des retombées supérieures. Donc il faut faire très attention à cet argument. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on n'intervient pas dans la culture pour l'économie, mais on doit être sensible au fait que ça rapporte sur le plan économique, même si ça n'est pas la légitimité première d'une intervention culturelle. Donc, faire le point là-dessus, c'est effectivement important. Alors, je pense qu'il faut maintenir cette espèce de double argumentation. On fait de la culture pour la culture, mais ça a des conséquences positives, des externalités positives dans d'autres domaines que la culture pour elle-même.
Vous faisiez référence au rôle de l'État en tant que soutien par rapport au théâtre et au spectacle vivant et à la culture en général, c'est une situation quand même spécifique à notre pays. Aujourd'hui, quand on regarde objectivement un petit peu ce qui est en train de se passer, avec, je pense, au CDN, aux grosses structures, aux moyens que ça génère, face à une évolution des pratiques culturelles qui diffèrent, est-ce que ce rôle de l'État à cet endroit-là, il n'est pas à repenser quelque part?
Alors, le rôle de l'État sur les gros labels, hein, il peut être tenté de se reconfigurer d'une manière drastique en privilégiant uniquement des logiques d'excellence. C'est une évolution qui tournerait le dos, à mon avis, à des enjeux d'intérêt public, qui sont à l'heure où la coopération entre les pouvoirs publics connaît des faiblesses, de s'en retirer, de tirer un trait sur cette vaste histoire de coopération entre pouvoirs publics autour de projets artistiques, même les projets les plus labellisés, les plus reconnus. L'autre évolution consisterait à renforcer dans les cahiers des charges de ces structures des objectifs non pas seulement sociaux d'accès à la création, mais de diversifier les formes d'implantation, d'insertion, d'enracinement de ces structures sur leur territoire au pluriel. Parce que quand on regarde le public d'un CDN, il n'est pas que un public de centre-ville. Quand on regarde la machine CDN, on peut parfaitement imaginer qu'à côté de la programmation dans un lieu emblématique, cette machine puisse être une machine à développer des projets territoriaux selon des logiques non plus de lieu, mais de territoire. Et là, il me semble que c'est une évolution qui est plus raisonnable, compte tenu du fait que c'est l'argent public qui finance ces projets, ces structures, et que l'argent public correspond à un projet politique.
On vient d'écouter le chercheur Emmanuel Négrier évoquer un flottement dans les axes de la politique culturelle de l'État. À noter qu'il signe aussi dans le dernier numéro de la revue Droit de vivre DDV un article sur le projet culturel du Rassemblement national. Il parle aussi d'une modification du cahier des charges des CDN, évoquant la piste d'une diversification des missions. Qu'est-ce que cela vous évoque, Éric Lacascade, vous qui avez dirigé le CDN de Normandie?
Je pense que les CDN le font quasiment déjà, que les questions de territoire, un CDN ne reste pas juste dans ses murs, il essaye d'aller dans les quartiers, il essaye de créer des choses in situ, il fait monter les chapiteaux sur des places publiques, voilà, régulièrement les directeurs de CDN le font. Non, moi je me dis en même temps quand j'entends qu'il y a deux choses. Est-ce qu'il faut faire à tout prix évoluer, de quelle manière faire évoluer la machine et changer et transformer? Ou est-ce qu'il ne faut pas une cassure et une entre guillemets révolution, une refondation à un certain moment de CAD public pour en redéfinir vraiment précisément et réinventer dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, qui a énormément changé, les bases et les choses. Voilà, je suis plus moi dans une rupture que dans un aspect réformiste. Et puis la deuxième chose, c'est que j'entends aussi comme valeur à défendre la culture. Mais bien sûr, bien évidemment, pour que les gens qui nous écoutent, pour que ce soit concret, il y a des dizaines et des centaines d'intermittents, acteurs et techniciens qui, depuis 10 ans maintenant, perdent leurs heures de travail, n'arrivent plus à bosser, sont RSA ou RMI, n'arrivent plus à trouver de travail. Enfin, il y a quelque chose qui est pas uniquement une valeur morale, mais il y a quelque chose qui se passe dans... Il y a des familles qui sont ravagées, des vies qui sont détruites, des gens qui se demandent comment ils vont continuer. Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils aient un deuxième métier à côté du... J'entends beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent, est-ce qu'on pourra être acteur? Il ne faut pas, en même temps, qu'on ait un autre job. Donc, il y a quelque chose d'énorme qui est en transformation. Voilà, et c'est quelque chose qui, encore une fois, qui date pas de cette période-ci, mais qui est mis en place depuis un certain nombre d'années par ceux et celles qui nous gouvernent. Quand dans les structures institutionnelles, il y a par exemple énormément de gens qu'on a décidé de mettre pour faire fonctionner la baraque, les administrateurs, des relations publiques, des chargés de communication, pour s'inscrire dans la grande loi du marché et participer d'une économie. Et quand les acteurs ont été chassés de ces CDN, les acteurs et les actrices, les metteurs en scène, les auteurs, et ne reviennent que par hasard pour une ou deux représentations et après s'en vont et sont à la marge, je trouve qu'à partir de là, le verre est dans le fruit et c'est eux à la base qui font le théâtre, qui font l'art.
Alors, vous parlez de rupture. Cette rupture, vous l'avez quelque part initiée lorsque vous étiez à la tête du CDN de Normandie. Suppression des abonnements, droit d'asile à la création, laissant les clés du plateau au mur, au premier qui les voile. Coopérative d'acteurs, ça a donné quoi et qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ?
Ça a donné que je me suis fait rattraper par la patrouille au bout de 10 ans, que pendant un an j'ai été sans subvention et que j'ai plus jamais dirigé une institution. Parce que dans ce pays, effectivement, on est dans un état politique où vous pouvez dire beaucoup de choses, mais certaines choses vous sont retoquées et vous en payez le prix et les conséquences. Ce que j'ai fait avec dignité, honnêteté et loyauté envers moi-même. J'ai passé un an, le ministre de l'époque, dont on a tous oublié le nom, avait été accueilli par des tomates dans la cour d'honneur du Palais des Papes où je jouais. Je pense que voilà, il est sorti par la petite porte. C'est des choses qui vous marquent, oui. Voilà, après, j'ai bien évidemment essayé de faire des choses comme je les sentais, comme je les, d'un point de vue plus organique, parce que le théâtre c'est quelque chose de vivant, c'est plus comme un organisme que comme un artefact. C'est pour ça que je dis que le théâtre n'est pas fait pour, c'est pas comme une voiture qu'on conduit pour aller d'un endroit A à un endroit B. Le théâtre c'est un corps vivant, comme mon corps, comme votre corps, et il réagit, voilà, il a des maladies, il a des excroissances, il évolue et il vit et il se transforme. C'est toute la beauté et la force de ce corps vivant. Donc j'ai essayé pendant 10 ans d'être au plus près du vivant dans mon théâtre, et ça n'a pas fait de... J'ai cru que j'allais avoir une vertu de, comment on dit, d'exemplarité, et bien non, et aussi quand avec l'annulation du Festival d'Avignon, et quand les intermittents étaient dans le théâtre et je leur donnais la possibilité de faire la programmation avec moi, en annulant toute la programmation que j'avais faite moi à l'époque pour qu'on soit ensemble, les Gueux mais les Misérables, les Sans Toi du théâtre, eh bien, ça n'a pas vraiment été suivi par l'ensemble de mes pairs au niveau national, mis à part une exception du côté de Nantes. Mais c'était une sacrée belle expérience, et je suis fier de l'avoir vécu. Puis, comme je suis assez fier d'avoir annulé mon spectacle dans la cour d'honneur, à certains moments, même si c'était emblématique de jouer pour la deuxième fois un spectacle dans la cour d'honneur du Palais des Papes dans l'histoire du festival, qui était Platonov, 2 années d'affilée, à certains moments, il faut savoir prendre le sens de l'histoire.
Popping Jazz avec Bachung, sensible et ironique. Si tu me quittes, est-ce que je peux venir aussi? Je crois que c'était une pièce que vous avez.
Oui, hein, absolument. Oui, ouais, on l'avait, j'avais monté ça dans les années 80.
Alors, extrait de l'album Passer le Rio Grande en 86 chez Barclay. Dans un contexte budgétaire contraint au motif que la culture n'est pas une compétence obligatoire, en janvier dernier, le président du département de l'Hérault annonçait une coupe de 48% du budget culture. Où en est-on aujourd'hui? Après les vives contestations occasionnées par cette annonce dont le retentissement a pris une dimension nationale, le 17 février, en début de séance du débat d'orientation budgétaire, le président Kléber Mesquida va rappeler que le budget définitif ne serait validé qu'à l'issue du vote prévu fin mars. Ce n'est qu'à ce moment que nous saurons exactement ce que nous avons pu faire et ce qui aurait été différé, voire supprimé ou réduit, a-t-il déclaré, ouvrant ainsi la possibilité d'aménagement éventuel tout en laissant planer le doute. Il s'est félicité du positionnement des communautés de communes qui se seraient engagées à assurer la prise en charge des conventions passées avec le département. 9 des 10 communautés de communes que compte le département devraient ainsi faire preuve de leur soutien à la culture. Le retrait du département impacte la pratique des financements croisés et pointe l'interdépendance des collectivités territoriales autour de la compétence culture. Il a poussé le maire de Montpellier, Michael Delafosse, à entrer en scène. On l'écoute.
Un contexte difficile pour les collectivités territoriales où on nous demande un effort de 2,2 milliards d'euros. Eh bien moi, je souhaite dire qu'on va sanctuariser les budgets de la culture, de la ville et de la métropole. Montpellier, grâce au financement des contribuables, des entreprises du territoire possèdent une politique culturelle qui est saluée partout. Un modèle avec la Comédie du Yves, le Printemps des Comédiens, Montpellier Danse, Radio France, Arabesque, le cinéma, des lieux de culture. Eh bien, aujourd'hui, il faut envoyer un signal que nous les protégeons. Et puis, il y a des structures culturelles qui sont fragilisées parce que les coûts augmentent, parce que des financements tendent à disparaître. Eh bien, au conseil municipal de la ville de Montpellier, nous allons créer un fonds d'urgence pour protéger les lieux de diffusion, pour soutenir les artistes, pour soutenir la rencontre entre le public et les artistes. Donc, une enveloppe de 250 000 euros, qui est un effort conséquent, qui, j'espère, nous permettra de protéger les lieux. Et puis, j'en appelle aux entreprises du territoire à venir accompagner la culture, parce qu'elle contribue au rayonnement de Montpellier et il est important que les manifestations culturelles soient soutenues. Et puis enfin, dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, dans le cadre des Maisons pour tous, qui sont des lieux formidables de pratiques culturelles, là aussi, une enveloppe de 200 000 euros qui va permettre aux artistes de pouvoir continuer à travailler, parce qu'il y a cet enjeu de précarité lié à l'intermittence. Et puis aussi parce qu'il faut rencontrer le public et continuer ce mouvement-là. Moi, je ne suis pas là pour commenter, je suis là pour agir et pour rappeler que Montpellier fait le choix de la culture.
Alors, Michael Delafosse annonce un soutien aux structures fragiles et aux artistes. Qu'en est-il du côté des régions? Presque toutes les régions prévoient des millions d'économies. En Provence, Alpes-Côte d'Azur, la baisse est de 7,8%. La palme d'or des coupes budgétaires revient à la région Pays de la Loire. Avec une baisse de 62%, la culture perd environ les deux tiers de son enveloppe. Seules deux régions de métropole la Bretagne et la Normandie, vont continuer à soutenir les acteurs culturels au même niveau qu'en 2004. Les crédits culture y sont sanctuarisés. En Occitanie, la région avait préféré différer le vote de son budget dans l'attente des décisions du gouvernement quant aux économies demandées. Qu'en est-il du budget culture en Occitanie pour 2025? La réponse de Carole Delga, recueillie lors de la présentation du budget à la presse le 12 février dernier.
Pour la région, là, comme je vous le dis, on a considéré qu'il était nécessaire que tout le monde, tous les secteurs fassent un effort, mais que voilà, la culture est plus essentielle que jamais avec la montée des populismes. Et c'est pour ça que nous avons décidé, par volontarisme politique, par décision de la majorité, de maintenir le budget de plus de 70 millions d'euros.
Alors, vous écoutez Altermidi en escapade, le magazine radio du média citoyen d'Altermidi, aujourd'hui consacré aux enjeux de la culture et de la création en période de crise. Loin des pôles de décision, comment vit-on dans l'arrière-pays les pesantes incertitudes budgétaires ? Agathe Arnal, la directrice du théâtre Albaret d'Agange, retrace l'histoire du théâtre accompagnée depuis sa création par le conseil départemental et se questionne aussi sur les possibilités pour prioriser le budget artistique.
Moi, je vis un paradoxe, en fait. On va dire que d'un côté, ben, nous, notre saison depuis le mois de septembre, et c'est ma première saison, donc c'est la première traversée avec des propositions artistiques que je défends, ben, il y a une appétence vraiment géniale du public et de au-delà des enfin de mon équipe de la petite collectivité qu'on monte autour de ce projet, ben c'est très joyeux parce que les gens sont très présents, ont vraiment envie d'être là avec nous. On est entouré d'associations, de lycéens, de enfin voilà, c'est d'enfants, de petits-enfants, de compagnies qui ont la joie de faire ces métiers-là et de les défendre et de faire du commun et de mettre de la pensée là où il en manque. Et de l'autre côté, effectivement, il y a des mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus, qui font qu'on est aussi à subir. Hein. Enfin, au départ, on est vraiment un peu choqués même de se dire que il n'y a pas de désir politique de défendre la culture comme élément essentiel dans nos vies. Et je parle en particulier d'un des partenaires historiques du théâtre Albaret, qui est le département. Voilà, moi j'aime bien repartir dans l'histoire parce que je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, ben il faut rappeler l'histoire pour essayer de se dire qu'est-ce qui se passe. Et en particulier, le département de l'Hérault est un pilier du théâtre Albaret. C'est vraiment une institution qui a dès le départ été très en soutien de la rénovation de cette vieille usine pour la transformer en théâtre. Le département de l'Hérault a soutenu une élue, Anne-Marie Bourillon, fondatrice du théâtre Albaret, au nom de Jacques Rigaud. Et ensuite, en 2009, quand le théâtre a été rénové, c'est aussi le département de l'Hérault qui a porté ce projet et qui a structuré et mis beaucoup d'argent pour qu'on ait un outil performant qui puisse accueillir des compagnies comme dans les villes, quoi, en fait. Hein. On est un théâtre en ruralité. Et donc, le département de l'Hérault était aussi là, a tout de suite mis en place une direction artistique, a déployé les moyens de mettre un agent qui était Laurence Calmès au départ, puis Frédéric Stein en direction artistique. Donc il y avait un vrai désir de développement. Les agents du département, moi qui étais beaucoup dans cette maison, je les voyais dans le quotidien du théâtre, venir proposer artistes au collège, venir proposer des projets avec les EHPAD, arc-en-ciel, donner du temps et du développement, vraiment, et ça s'est fait petit à petit avec des années. Grâce au département, du coup, les habitants, les gens se sont appropriés et ont vécu ce théâtre, et c'est devenu essentiel. Et là, moi, la question, c'est comment c'est possible de détruire ce qu'on a construit, en fait.
Alors, c'est aussi un théâtre qui est géré par la Comcom. Si les déclarations qui ont été faites par le président du conseil départemental de l'Hérault venaient mettre en œuvre, c'est-à-dire, bon, il a parlé d'une coupe budgétaire conséquente, on ne sait pas encore exactement à quel niveau ça va se situer. Comment ça va impacter vos missions ? Peut-être c'est aussi l'occasion de définir vos missions au niveau aussi bien artistique, mais peut-être action culturelle.
À ce jour, la collectivité, la communauté des communes, gangeoise et suménoise, n'a fait que mettre en œuvre tout ce que je pensais bien pour cette maison.
Alors, le théâtre Albaret, implanté en milieu rural, bon, parfois on peut se dire c'est juste du théâtre, mais pas uniquement. Il y a la dimension artistique et puis il y a aussi des actions culturelles qu'on méconnaît.
C'est un peu central en fait, l'éducation culturelle ou la médiation ou la relation au public. Enfin, ça peut porter plein de noms différents. Moi, dans le projet que je suis en train d'écrire, j'y réfléchis beaucoup parce que j'écris un projet de scène conventionnée art en territoire. Et du coup, vraiment, ça demande une réflexion poussée de ce qu'on a envie, de quelle couleur on a envie de donner à notre théâtre. Et moi, principalement, c'est que chaque spectacle est une occasion de créer une relation, un moment privilégié entre les artistes et un public.
Pour revenir aux petits nuages ou plus ou moins gros nuages qui se sont amoncelés autour de votre activité, quel impact ça pourrait avoir, aussi bien sur la dimension artistique que sur ces actions que vous êtes en train de nous décrire ?
L'impact, en premier lieu, il va toucher les artistes. Il va toucher ceux les plus précaires dans les maisons de théâtre, il faut le savoir, ce sont les artistes, ceux qui font le spectacle. Ils sont un peu devenus, ils sont un peu au bout de la chaîne. C'est assez incroyable. Alors moi, je connais un petit peu l'histoire de la création de nos grands théâtres et de l'organisation par l'État du théâtre. Mais petit à petit, effectivement, les compagnies sont les plus impactées. C'est-à-dire que les maisons de théâtre, le fonctionnement, il est pris en charge souvent par les collectivités. Et le coût artistique, c'est des demandes de subventions sur des dossiers artistiques qu'on présente, qu'on défend, qu'on donne la couleur vers où on veut aller, quel public on veut toucher. Et là, s'il y a des coupures comme c'est annoncé, directement, les plus impactés, ça va être les artistes. Ça veut dire qu'on va devoir vraiment réfléchir, nous, à l'intérieur. C'est le premier théâtre que je dirige. En tout cas, déjà, je me dis, si ce qui est annoncé arrive, comment ne pas baisser notre coût artistique ? Le régime intermittent, à mon avis, va être malmené aussi. Donc, il faut vraiment réfléchir à une économie interne qui permettra de faire des économies pour réimpulser cet argent dans l'artistique. Aussi pour notre public, qui a une grosse appétence pour les artistes, c'est-à-dire que les artistes et le public, eux, ils ont besoin de se rencontrer. Il y a une grosse demande. Nous, on refuse des gens à chaque représentation. Il faut le savoir. Le Théâtre Albaret fait 225 places. On refuse du monde, tout le temps. Donc voilà, j'attends. Je n'ai pas les notifications. Mais en tout cas, il faudra très vite, nous, en interne et avec ma collectivité, voir quelle économie pourra être faite et pas sur l'humain.
Alors, il faut réduire la voilure, il faut prioriser le budget artistique et sauver l'humain, dit la directrice du théâtre rural de Ganges. Un théâtre sera donné le 15 mars prochain, votre pièce, dit Proie. Alors, ça a été créé au printemps des comédiens en 2022, et en même temps, elle sera donnée après à Paris, à la Scala, du 3 au 27 avril. Alors, si vous avez choisi d'implanter votre compagnie ici, pas loin d'ici, c'est quoi qui a présidé à ce choix ?
Le fait que j'habite dans la région.
Ouais.
C'était ça, c'est la chose principale. Et puis moi, je suis une compagnie nationale et donc j'étais en centrale à Paris et on m'a demandé de me délocaliser. Donc j'ai choisi ma région, la région où j'habite.
C'est une chance pour nous. Oedipe Roy, c'est l'archétype de la tragédie grecque, s'il en est. Comment et pourquoi vous êtes-vous attaqué à ce texte aujourd'hui et par quel bout vous l'avez pris ?
C'est un peu ce dont je parlais en début d'émission, devant la multiplicité de ce qui nous tombe sur la tête tous les jours et devant cette réalité qui fout le camp dans une virtualité de plus en plus grande, l'information y étant pas pour rien et la communication à tout va, nous perdant comme ça et ouais, vraiment la sensation que le réel s'est fait la malle. J'avais envie de revenir à quelque chose que je savais de fondamental et les deux pieds dans la terre, qui est la tragédie, d'où mon choix d'Oedipe.
Alors, vous êtes adepte de ce que vous nommez la ligne du rituel qui charpente votre travail. Quelles sont les lignes de force de ce rite ?
Quand je dis la ligne du rituel, j'espère qu'on fera une prochaine émission ensemble, c'est que le théâtre vient aussi en partie du rituel. Si on peut distinguer du proto-théâtre, on a dans le rituel ancien, donc c'est ou dans notre même rituel du quotidien, ces choses qu'on répète, qu'on fait comme ça et qui développent comme une vie parallèle à la nôtre, un imaginaire en même temps, ancré dans le coup du réel. Donc ce qui m'intéressait, c'était la tragédie politique de cet homme
dont tout le pouvoir lui appartient, et comment en quelques heures ce pouvoir va disparaître. La tragédie amoureuse et passionnelle, parce que c'est un couple qui s'aime et qui va se rendre compte que ce sera impossible de continuer à s'aimer. Et aussi cette chose presque religieuse qui nous vient comme ça de comment on pourrait dire, des choses anciennes qu'on ne suit pas. C'est-à-dire, Œdipe ne va pas suivre les oracles, et comme s'il ne va pas suivre l'avis des dieux. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si on ne suit pas, peut-être pas l'avis des dieux, mais l'avis de la terre, non, des arbres, de la nature, qui nous disent des choses, et tout d'un coup, on va contre, et ça risque de s'effondrer. C'est ce qui se passe avec Œdipe, où on voit une classe au pouvoir qui s'effondre et disparaît, alors qu'elle était menée par un homme seul qui pensait pouvoir tout résoudre en lui-même. Suivez mon regard.
Dans le même temps, les Parisiens ont de la chance parce qu'ils pourront voir à Paris, du 3 au 6 avril, la Villette, Tragédie, une pièce qui parle de la place de la jeunesse aujourd'hui, dont vous co-signez la mise en scène avec David Bobet, pièce écrite et interprétée par les élèves du studio 7 de l'École du Nord, 16 comédiens au plateau, autour d'un avion éventré qui dresse le portrait d'une génération qui a tout à réparer et à réinventer. Les deux pièces, en fait, elles parlent du présent.
Oui, absolument. Sans faire moderne à tout prix, mais elle parle du présent, de l'ici et du maintenant, et de ce qu'on est en train de traverser.
Alors, je vous cite, « Je n'écris jamais les performances des champions de natation, je préfère m'attacher à leur noyade, je fais mon travail. » Pas de chance pour Léon Marchand. Ça, vous l'écrivez dans le livre que vous avez signé « Au cœur du réel », un livre passionnant et qui retrace votre parcours qui est paru chez Actes Sud. Quel regard, par exemple, vous avez porté sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Thomas Joly ?
Je suis partagé parce qu'en même temps, je trouve que il y a plein de belles choses, il y a plein de choses humaines, chaleureuses, et porteurs comme ça, porteuses d'humanité. Et en même temps, ça sert un pouvoir politique qui, pendant 3 mois, nous a laissés dans un marasme sans gouvernance et qui donne une vitrine de notre pays et qui rassemble les Français avec un côté patriotique qui, pour moi, est toujours un petit peu suspect. Et donc, d'un autre côté, ça me gêne. Mais c'est un peu ce qu'on disait, à la fois, on est porteur de changement, d'originalité, d'imaginaire. Et à la fois, on est des espèces de chiens de garde de l'institution. Et à un moment ou un autre, quand ça va se durcir, il faudra bien choisir un camp ou l'autre.
On arrive malheureusement au bout de cette émission et je suis tout à fait d'accord pour qu'on continue dans une autre émission. Quel est votre moteur de la création aujourd'hui ?
Me lever le matin et me rappeler cet adolescent de 17 ans qui avait des choses à dire sur le cœur et essayer de réveiller tous les jours ce pourquoi j'ai commencé le théâtre et d'être toujours au commencement.
Merci beaucoup Éric Lacascade d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous
remercie. Radio Escapade. Et pour finir, encore un extrait que vous avez mentionné dans votre livre « Cœur du réel ». À la fin d'Oncle Vania, Serebiakov, sur le départ, dit « Il faut agir les amis, il faut agir. Bonne chance à tous !»